أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc chers frères et sœurs, on reprend les cours après cette pause d'une quinzaine de jours. Et aujourd'hui, nous allons continuer le commentaire de sourate Yassine. Et la dernière fois qu'on a commenté cette sourate, on s'est arrêté au verset 36. Et on continuera, inchallah, à partir du verset 37. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit: Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun. Dans une autre lecture: Wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatihim fil fulkil mashhun. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur l'arche chargée, ou bien sur le navire chargé. Alors, rappelez-vous, Allah Azza wa Jal, dans cette partie-là de cette sourate, était en train de relater quelques signes de la grandeur de Dieu, quelques signes qui démontrent qu'il est capable de ressusciter l'être humain. Ainsi, Allah Azza wa Jal a commencé par parler de certains signes qui ont un rapport avec la terre. Et un signe pour eux est la terre morte à laquelle on a donné vie. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a commencé à parler de certains signes qui ont un rapport avec le ciel. Un autre signe pour eux, la nuit à partir de laquelle on retire la journée. Et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla a commencé à parler de certains signes qui ont un rapport avec la mer. Mais c'est un rapport qui est indirect. Donc il a commencé par parler des signes qui ont un rapport avec la terre, des signes, il a parlé des arbres, jannati min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-'uyun, il a parlé des rivières. Et ensuite il a parlé des signes qui ont un rapport avec le ciel, donc la nuit, le jour, shams, al-qamar. Et là il est en train de parler avec de signes qui ont un rapport avec l'eau, ou avec, plus précisément, avec la mer. Alors, pour la majorité des exégètes, ce verset-là, ce verset-là fait référence à l'fulk de Nuh alayhi as-salam, à l'arche de Noé. Et Allah Azza wa Jal donc fait référence à la sauvegarde de Nuh et tous ceux qui étaient avec eux suite au grand déluge qui a dévasté la terre, ou qui a dévasté une partie de la terre en donnant la mort à tous les habitants qui y résidaient à l'époque. Alors, ce qui réconforte, selon ceux qui ont opté pour cet avis-là, ce qui réconforte que ce verset-là fait référence à l'arche de Noé, c'est que Allah Azza wa Jalla a ajouté un qualificatif. Il a dit le fulk al-mashhoun. Et ceux qui sont de cet avis, ils disent que ce terme-là, ou ce qualificatif-là, a déjà été utilisé dans le Coran en faisant référence à l'arche de Noé. Ainsi, dans le verset 119 de Sourate Shu'ara, Allah Azza wa Jal dit: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. Nous le sauvâmes donc, de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche chargée. Donc le qualificatif mashhoun a déjà été utilisé pour parler de l'histoire de Nuh alayhi salam. Donc ceux qui ont opté pour cet avis, ils ont pris ceci comme une preuve qui démontre qu'il s'agit ici de l'arche de Noé. Dans le verset 33 qui a déjà précédé, Allah Azza wa Jal dit: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit: Wa ayatul lahumul layl naslakhu minhu an-nahar. Mais lorsqu'il a parlé de l'fulk, il n'a pas dit wa ayatul lahumul fulku hamalnahum fi ou hamalna dhurriyatahum fi. Normalement, théoriquement, on devait avoir la même formulation: ayatul lahum l'ardul mayta, un signe pour eux est la terre morte, wa ayatul lahumul layl, et un signe pour eux la nuit, wa shamsu, donc sous-entendu un signe pour eux le soleil, donc ayatul lahumul qamar, donc ça sous-entend qu'un autre signe pour eux est la lune, Mais lorsqu'il a parlé de le foulk, il a dit wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum fil foulk al mashhur. Il n'a pas dit wa ayatul lahum al foulk hamalnahum ou hamalna dhurriyatahum fi. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal veut attirer notre regard non pas sur le foulk lui-même. C'est pas lui le foulk en lui-même, le navire ou l'arche n'est pas en lui-même un signe. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut construire un arche qui est grand, qui est immense. C'est pas cela où réside le signe ou le miracle. Le miracle réside dans le fait d'avoir porté cette arche-là, d'avoir porté dans un déluge qui a tout dévasté. Et c'est pour cela que à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla justement parle du déluge de Nuh, et en parlant de l'arche, il met en exergue la capacité qu'il a eu à soulever et à protéger cette arche du déluge. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُصُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ ذُكِرٍ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ. Là où il y a le côté miraculeux, c'est de l'avoir porté. Et là, il n'a pas dit sur l'arche, il a dit عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُصُرٍ. L'alwah, c'est quelques planches. Et dosur, ce sont les clous. Donc nous le portâmes sur une barque composée de quelques morceaux de bois et de quelques clous. Normalement, la force du déluge, rien ne pouvait affronter la force du déluge. Et c'est pour cela que le miracle réside dans le fait d'avoir protégé cette barque-là de la noyade. Et donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit wa ayatul lahum, et un signe pour eux, anna hamalna dhurriyatahum fil fulk al mashhur, que nous avons porté leur descendance dans l'arche chargée. Donc le signe réside dans la protection de l'arche et non pas dans l'arche lui-même. Lui, ce n'est qu'un prétexte quelque part. Exactement comme lorsqu'on a parlé dans le Jumu'ah de Maryam alayhi salam. وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. Fais bouger le tronc de l'arbre ou bien du palmier et il fera tomber sur toi des fruits mûrs. Alors que normalement il ne pourra pas bouger, on ne peut pas bouger le tronc d'un palmier, c'est impossible de le faire bouger. Mais il faut faire le sabab, la cause, et Allah Azza wa Jal dans ce cas t'accompagne avec le miracle, et c'est exactement ce qui est signalé dans ce verset. Alors, wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatahum. Al-dhurriya, la majorité des littéraires disent que dhurriya signifie la descendance. Mais il y a certains qui ont trouvé un problème. C'est-à-dire, ils ont dit, si on dit, et un signe pour eux, que nous avons porté leur descendance. Là, Allah s'adresse à qui? Il s'adresse au Quraishit. Et un signe pour eux, que nous avons porté leur descendance dans la barque ou bien dans l'arche chargée. Donc ils ont trouvé que c'était un problème de dire la descendance n'est pas encore venue. Et Allah Azza wa Jalla parle de quelque chose qui est déjà passé, d'accord, à l'époque de Nuh alayhi salam. Donc certains ont dit dhurriyatahum fait référence à leur ascendant, à leurs parents, à leurs grands-parents. Wa ayatul lahum, donc un signe pour eux que nous avons porté leurs parents ou leurs ancêtres dans l'arche chargée. Mais pour d'autres, ils ont dit dhurriya en arabe fait référence aux femmes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une bataille, il a trouvé qu'il y avait une femme qui a été tuée, une non-musulmane qui a été tuée par l'armée musulmane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Khalid ibn Walid, il a dit ce genre de femme n'a pas à être tuée. Donc la taqtulu al-dhurriya, en faisant référence aux femmes, ne tuez pas les femmes. Et donc ils ont dit dhurriya dans ce verset là signifie les femmes. Mais pour la majorité des savants, ils disent non, dhurriya, ça veut dire la descendance. Et c'est ce qui est le plus récurrent, le plus connu dans la littérature arabe. Et même Ibn Atiyah, rahmatullahi alayhi, qui est un grand commentateur du Coran, a dit, ceux qui disent que dhurriya veut dire les ascendants, se sont trompés parce que cette appellation-là, ou bien cette signification-là, n'a jamais été connue dans la littérature arabe. Mais ce qu'il faut savoir, comment maintenant comprendre le verset? Et un signe pour eux que nous avons porté leur descendance, alors que la descendance n'est pas encore venue. Et Allah Azza wa Jal parle, selon bien entendu ceux qui sont pour cet avis-là, parle de Nuh alayhi salam. Il a porté normalement leur ascendance. En fait, c'est très simple. Là, il y a une forme métaphorique et qui reflète la beauté du Coran. Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, il s'adresse aux Quraishites, ou à ceux qui lisent ces versets. Et Allah Azza wa Jal dit « Inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fi al-jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah » dans surat Al-Haqqa. C'est nous qui, quand l'eau déborda, faisant référence justement au déluge de Noé, c'est nous qui, quand l'eau déborda, nous avons chargé sur l'arche. Ne vous avons chargé sur l'arche. Ne vous avons chargé sur l'arche. Or là, Allah Azza wa Jalla s'adresse aux Quraishites. Et il leur parle d'un fait historique qui est arrivé plusieurs siècles auparavant. Et là aussi, est-ce que c'est une contradiction? Pas du tout. Là, il s'adresse à eux, il leur a dit, nous vous avons porté dans l'arche. Et dans le verset qui nous intéresse dans Sourate Yassine, il leur dit, nous avons porté votre descendance dans l'arche. En fait, la logique veut que, imaginez quelqu'un qui a affronté la mort et qui allait inévitablement mourir. Et qu'au dernier moment, quelqu'un est venu pour le sauver. Supposons que ce quelqu'un-là était célibataire, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de descendance. Et au dernier moment, supposons par exemple, il allait se noyer, il était dans une barque, il s'est noyé. Et ça, il voyait la mort. Trois jours après, quelqu'un est venu pour le sauver, alors qu'il était vraiment à deux doigts de mourir. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, et plus tard, cet homme-là a pu avoir une descendance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? L'homme l'a sauvé, et il a sauvé toute la descendance qui est venue plus tard. Ça veut dire que 40 ans, un siècle après, en voyant les petits-enfants de cet homme-là, le sauveur pourrait toujours leur dire, c'est moi qui vous ai sauvé. Parce que sans avoir sauvé votre grand-père ou votre père, vous ne serez pas là alors qu'il est. D'accord? Donc quelque part, lorsque tu sauves les ascendants, tu sauves automatiquement leur descendance. Et donc c'est pour cela que dans certains versets, Allah Azza s'adressa aux gens directement en leur disant « Je vous ai porté dans la barque » ou bien dans l'arche. Et dans ce verset-là, il leur dit « J'ai porté votre descendance dans l'arche ». Ça veut dire que tout ce qui viendra d'ici jusqu'à la fin des temps, des êtres humains à qui Allah Azza donnera vie, sont là quelque part parce qu'Allah Azza wa Jal a protégé Nuh alayhi salam ainsi que ses enfants et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc voilà pourquoi on peut confirmer que Dhurriya veut dire la descendance et ceci n'entache en rien le verset coranique. Et on n'a pas besoin d'expliquer « al-dhurriya » par les ascendants afin d'éviter une contradiction supposée. La contradiction n'existe pas dans ce verset-là. Alors, toutefois, il y a un bémol qu'il faut apporter. C'est qu'il y a certains savants, certains archéologues qui confirment au jour d'aujourd'hui que le déluge de Noé n'a pas touché la terre entière. Alors d'après certaines recherches archéologiques, on a trouvé qu'il y a une couche de sédimentation. Vous savez, lorsqu'il y a un déluge ou lorsqu'il y a beaucoup d'eau dans une rivière et que l'eau disparaît, il y a ce qu'on appelle la sédimentation. Et donc cette sédimentation, donc, au fur et à mesure du temps, une sédimentation va s'opérer sous forme de couches, l'une au-dessus de l'autre. Et les géologues, donc, ils ont cette habitude-là, surtout qu'ils s'intéressent justement à ce domaine-là, ils peuvent donner les caractéristiques de la météo, du climat qui régnait à l'époque selon la couleur, la largeur de la sédimentation qui s'est basée sur une région du monde. Et ce qu'on a remarqué justement, c'est que dans la région de la Mésopotamie qui prend, et la péninsule arabique, la Mésopotamie qui prend l'Irak et tout ce qui l'entoure, on a trouvé une sédimentation qui est très large et qui a la même caractéristique. Et ces savants-là ont dit que cette sédimentation s'est opérée d'une manière très très rapide. C'est-à-dire que ça n'a pas demandé énormément de temps. Et ça serait, ça reste toujours une hypothèse, ça serait la sédimentation qui s'est opérée suite à l'arrêt du déluge de Nuh alayhi salam. Or, cette sédimentation-là n'est pas continue, elle est discontinue. Dès qu'on quitte cette région de Mésopotamie, cette sédimentation, on ne la trouve pas. Donc, selon cette hypothèse-là, le déluge de Noé n'a dévasté qu'une région du monde et non pas la terre tout entière. comme le prétend la Bible. Dans la Bible, on parle de la terre tout entière. Donc, pour ces historiens, ces archéologues, ils disent que ceux qui ont disparu parmi les humains sont les habitants de cette région-là et non pas les habitants du monde entier. Et d'ailleurs, même l'histoire des enfants de Nuh, Ham, Sam, Yafith, qui ont donné naissance à toutes les populations qui sont, et les peuplades qui sont connues au jour d'aujourd'hui, là, bien entendu, ça reste quand même une confirmation qui vient des anciens livres. Et ce n'est pas une confirmation qui se trouve dans les livres de l'islam. Et c'est pour cela que certains donc, émettent cette critique-là, en disant justement qu'il ne faut pas suivre à la lettre ce qui est dit par les chrétiens ou par les juifs, d'autant plus que le Coran n'entre pas dans certains détails. Rien dans le Coran ne confirme que ça a touché le monde entier. Certains réfutent justement cette hypothèse-là parmi les musulmans en disant « mais le verset-là montre que le déluge a touché tout le monde. » Pourquoi disent-ils ? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il parle aux gens et il leur dit « c'est moi qui vous ai protégé » ou bien « c'est moi qui vous ai porté » lorsque vous étiez dans l'arche ou lorsque vos parents, vos antécédents étaient dans l'arche ou lorsque et j'ai protégé votre descendance. Et dans ce cas, Allah s'adresse à tous ceux qui vont lire le Coran. Et ceux qui peuvent lire le Coran, c'est le monde entier. Donc il parle à l'humanité entière. Et ceci laisserait entendre que le déluge a touché le monde entier et que les seuls survivants qu'il y avait sur terre étaient ceux qui étaient dans l'arche. Alors, ceux qui sont de l'autre avis, qui ont émis l'hypothèse que je viens de citer, disent non, pas du tout. Parce que le verset là, Allah Azza wa Jalla s'adresse aux Quraishites. Hein? Il parle aux Quraishites. Il parle aux Quraishites. Et les Quraishites font partie de cette région du monde qui a été touchée par ce déluge-là. D'accord ? Donc ceci, c'est-à-dire ne réfute pas l'hypothèse que ces gens-là ont émis, puisqu'ils disent il se peut que dans d'autres continents, il y avait des gens qui ont continué de vivre lorsqu'il y avait le déluge. Et le déluge a touché la péninsule arabique, la Mésopotamie. Et donc les ancêtres de ces gens d'aujourd'hui, c'est eux qui ont été sauvés. À un certain moment, il n'y avait personne, aucun habitant de cette région-là, sauf ceux que Allah Azza wa Jal a sauvés dans la barque. Donc vous voyez, si je cite ça, ces hypothèses-là, c'est pour laisser une porte ouverte au cas où la science plus tard donnerait des confirmations, d'accord, donnerait des confirmations certaines, et dans ce cas-là, on aurait toujours chez les musulmans une hypothèse qui réconforte justement cette retrouvaille et qui ne mettrait pas en cause la véracité du Coran. Alors que lorsqu'on est figé sur une seule hypothèse, d'autant plus qu'il n'a pas été vérifié d'une manière scientifique, et d'autant plus que les versets coraniques ne l'exposent pas d'une manière explicite, et que dans les versets coraniques, il y a encore une zone qui permettrait d'accepter une autre hypothèse, vaut mieux rester large, ratisser large, et garder toutes les hypothèses possibles en attendant de voir ce que confirmerait la science beaucoup plus tard. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah Azza wa Jal parfois ne rentre pas dans certains détails, c'est pour laisser l'être humain par lui-même découvrir certaines vérités scientifiques, et c'est avec ces vérités découvertes qu'il pourra donner la meilleure interprétation à certains versets coraniques. Ceci revient par exemple aussi lorsqu'on parle de Gog et Magog, et Ajouj ou Majouj, lorsqu'on a dit dans le Jumu'a. Là aussi, Allah, je n'ai pas rentré dans certains détails, et ce qui laisserait entendre justement certaines hypothèses, laisserait accepter certaines hypothèses, comme celle maintenant qui parle de la terre enfoncée. La théorie de la terre enfoncée, c'est qu'on dit que dans le pôle Nord, il y a une terre enfoncée, et il se peut qu'il y ait des gens qui habitent dans cet enfoncement quelque part. Et d'ailleurs, ça peut être réconforté lorsque Allah, je l'ai parlé de Radm. Lorsqu'il a parlé du barrage, il a parlé aussi de Radm. Et Radm, en général, on le fait d'une manière horizontale. D'accord ? Alors que Sedd, le barrage, on le met d'une manière verticale. Et l'utilisation, justement, des deux termes laisse deux hypothèses. Et donc, à partir de là, il est difficile de trancher. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre le risque, parfois, de trancher, alors qu'on a encore un certain doute, afin que ceux qui découvriraient certaines vérités scientifiques n'iraient pas contre la confirmation qu'on a donnée, d'autant plus si cette confirmation-là n'est pas explicite par les versets coraniques ou par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'est une parenthèse que je ferme, c'est seulement pour que vous ayez dans votre esprit justement qu'il y a une théorie qui parle d'un déluge seulement dans une région du monde. Ça peut être vrai comme ça peut être faux, mais dans un cas ou dans un autre, le verset coranique supporterait toujours les deux interprétations qui iraient dans un sens ou dans un autre. Alors, maintenant, j'ai donné l'avis de ceux qui soutiennent que le verset là parle du déluge de Noé. Alors, il y a un autre avis qui est minoritaire, et celui-ci soutient que le verset, en fait, il parle d'une manière générale. Il parle d'un bienfait divin qui est celui d'avoir asservi l'eau à l'être humain afin qu'elle porte les navires et afin que l'être humain puisse se déplacer d'un continent à un autre, aller chercher ses biens vitaux, aller chercher la nourriture, coloniser d'autres régions du monde, investir d'autres territoires. Et donc Allah Azza wa Jalla en fait relate uniquement son bienfait à l'être humain d'avoir donné cette capacité aux arbres et à l'eau justement de constituer des navires qui ont la capacité de flotter sur l'eau. Donc ça serait un signal envers la poussée d'Archimède que nous connaissons maintenant qui permet justement de supporter quelque chose qui est lourde, alors même que si on prend la même chose et qu'on l'enfonce dans l'eau sous une autre forme, elle se noie, elle entre à l'intérieur. Mais si on la positionne d'une certaine manière bien équilibrée, d'une certaine manière bien donnée, elle flotte. Et ceci ne pouvait avoir lieu si Allah Azza wa Jalla ne l'a pas voulu depuis le départ. Alors donc pour ces gens-là, pour ces savants-là, donc ils disent, là je parle d'une manière générale, ça veut dire toute la descendance des êtres humains peuvent bouger et monter sur des navires et passer d'un endroit à un autre. Alors concernant le qualificatif justement, le mash'oun, parce que rappelez-vous, j'ai dit que ceux qui soutiennent le premier avis, ils disent le terme mash'oun a été utilisé dans le Coran pour faire référence à l'arche de Noé. Et malheureusement, j'ai trouvé que Cheikh Tahar ibn Ashur, rahmatullahi alayh, dans son tafsir Tahrir wa Tanwir, il a dit tous les versets qui parlent de le mash'oun font référence à l'arche de Noé. Et là, il s'est trompé en fait. Il s'est trompé parce qu'il y a un verset qui parle de le mash'oun, dans lequel Allah utilise ce terme-là, mais sans pour autant parler de l'arche de Noé, de parler d'un autre arche. Lorsque justement Allah Azza wa Jal parle de Yunus alayhi salam, Allah Azza wa Jal dit dans sourate As-Saffat, « وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ » Et voilà, il a utilisé le terme « mash'oun ». Et je ne vois pas comment Tahar ibn Ashur a passé à côté de ce détail-là, alors qu'il est important. « إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ » Là, il parle de Yunus, alayhi salam. Et le fulk de Yunus n'a absolument rien à voir avec le fulk de Nuh, alayhi salam. « Il mash'oun », ça veut dire qu'il était rempli. Il y avait du monde dedans, et c'est pour ça que leur barque allait se noyer. Et c'est pour cela qu'ils ont fait un tirage au sort pour dire qui est-ce qui doit sauter pour que la barque reprenne son équilibre. Et c'est là où il y avait une nécessité de citer qu'il est mashoun, qu'il est bien rempli, bien chargé. D'accord ? Donc voilà. Donc ça, si Allah Azza wa Jalla dit le mashoun, là je parle de ceux qui sont de l'autre avis. Ils disent que c'est seulement pour montrer que même s'il est mashoun, même si cette barque-là est lourde, et théoriquement quelque chose qui est lourd doit s'enfoncer dans l'eau, Allah Azza wa Jalla a fait de sorte que cette chose-là flotte au-dessus de l'eau. Voilà pourquoi Allah a utilisé ce qualificatif, non pas pour parler de l'arche de Noé. Donc vous voyez que même ceux qui sont de ce deuxième avis ont des éléments, une argumentation qui est tout à fait acceptable. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit « وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ » Et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. وَخَلَقْنَا لَهُمْ C'est-à-dire nous avons créé pour cette descendance, ou bien pour ces hommes-là. مِنْ مِتْلِهِ Nous leur créâmes des semblables. Semblables à quoi? Semblables à l'fulk, semblables à l'arche, semblables à la barque, au navire. Des choses qui sont semblables à cette arche-là. Alors là, il y a deux interprétations qu'on peut donner. Pour ceux qui parlent de que Allah Azza wa Jalla parlait au début de Nuh, de la barque de Nuh, nous leur créâmes des barques et des navires qui sont semblables à l'arche de Noé. Voilà ce que Allah Azza wa Jalla voulait dire. Pour les autres, non. Ils disent non. Allah a parlé de l'fulk d'une manière générale, des navires d'une manière générale. Et il a créé d'autres montures sur lesquelles l'être humain peut monter. C'est le cas, par exemple, des chameaux. C'est le cas des chameaux. خَلَقْنَا لَهُمْ مِمْ مِتْلِهِ Pareil que l'fulk, nous avons créé des chameaux sur lesquels ils peuvent monter. D'autant plus que les Arabes avaient l'habitude d'appeler les chameaux « سَفَائِنُوا الْبَرْ » Les chameaux, on les appelle Soufounou al-Bar ou bien Safa'inou al-Bar, les navires de la terre. Il y a les navires de l'eau, bien des océans, et il y a les navires de terre. D'accord ? Donc, ce verset-là, selon le deuxième avis, fait référence justement aux chameaux, et non pas à d'autres embarcations ou à d'autres arches. Et ceux qui sont du premier avis, ils disent. Enfin, ceux qui sont de deuxième avis, qui disent que, en fait, Allah Azza wa Jalla, il parle seulement de خَلَقْنَا لَهُمْ مِمْ مِتْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, il parle des autres navires, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, tout de suite après, il a dit وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنْقَذُونَ. Et si nous le voulions, nous les noyons, نُغْرِقْهُمْ, pour eux alors, pas de secoureurs et ils ne seront pas sauvés. Donc ils disent, ici Allah Azza wa Jalla, il parle de quoi? Il parle de la noyade. Or, un chameau ne se noie pas. Ce qui se noie, ce sont les navires. Donc, lorsque Allah Azza wa Jalla avait dit « وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِمْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ » il faisait référence aux autres navires. Donc, le navire qu'il a cité au départ, c'était bel et bien le navire de Nuh alayhi salam. Il a parlé du navire de Nuh. Ensuite, il a dit « Je vous ai créé aussi d'autres navires, ou je vous ai donné la capacité de créer ou de fabriquer d'autres navires. » Et si nous l'avions voulu, nous vous noyerons, c'est-à-dire on vous donnera la noyade. Donc là, je continue de parler des navires. Donc là, c'est une preuve qui va à l'encontre du deuxième avis, n'est-ce pas? Mais pour les autres aussi, ils rétorquent. Ils disent non, en fait, ce verset-là, « وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنْقَذُونَ » En fait, il fait référence à l'avant-dernier verset. C'est lorsque Allah Azza wa Jal a parlé de l'arche de Noé. وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. D'accord ? وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Alors que le verset وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ, ça c'est un verset intercalaire. C'est un verset qui a été introduit entre les deux autres versets. Donc là, je continue de parler de l'arche de Noé. J'aurais pu le faire noyer le jour-là et ils n'auraient plus d'existence au jour qu'il est, au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Donc vous voyez que ce débat entre les partisans des deux avis reste un débat soutenu au niveau des preuves et au niveau de l'argumentation des uns et des autres. وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Alors, le mot « صَرِيخ » « فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ » صَرِيخ, en général, nous on dit « صُرَخ », ça veut dire « l'écrit ». N'est-ce pas? Sorah, ça veut dire les cris. En général, on crie lorsqu'on demande secours. Lorsqu'on demande des secours, on crie à haute voix. Et Allah Azza wa Jalla dit Fala sarikha lahum. Ici, il n'a pas dit Fala sorakha lahum. Il n'a pas dit il n'y a pas de cri pour eux. As-sarikh ici veut dire le secoureur. Sarikh, c'est celui qui t'apporte les secours. C'est ça, sarikh. En fait, dans la littérature arabe, il y a des mots qui ont ce qu'on appelle ce wazn-là, cette forme-là. C'est fa'il, fa'il. Et rappelez-vous, je l'avais déjà dit dans un autre cours, les mots qui sont de cette forme-là, le fa'il, ça peut être un nom de sujet, comme ça peut être un complément d'objet. Les deux sont possibles. Je vous donne un exemple qui est simple. Lorsqu'on dit ar-rahim, ar-rahim, c'est le miséricordieux. Donc là, c'est un nom de sujet. C'est lui qui donne rahma, ar-rahim. En revanche, lorsqu'on dit Ar-Rajim, A'udhu Billahi Minash Shaitani, Ar-Rajim, c'est celui qui reçoit quoi? La lapidation. C'est celui qui subit la lapidation. Donc là, c'est un complément d'objet et non pas un nom de sujet. Et Sarikh dans l'arabe, il peut avoir les deux significations. Sarikh, c'est celui qui demande secours. As-Sarikhu, dans le sens de verbe de sujet, dans le sens du complément d'objet, c'est celui qui demande le secours. Et Sarikh, le secoureur, D'accord ? Sarir, celui qui donne le secours, qui donne le secours. Donc dans ce cas, c'est un nom de sujet. Et les deux sont corrects. Mais dans le verset là qui nous intéresse, Sarir, c'est un nom de complément, c'est-à-dire de sujet, ça veut dire celui qui donne secours à celui qui en a besoin. Donc lorsque Allah je dis fala sarir alaum, ça veut dire ils n'ont pas de secours, personne ne peut leur apporter secours. Si je leur donne la noyade, personne ne peut leur apporter secours. Fala sarir alaum wa lahum yunqadhun, ça veut dire rien ne les sauvera de la noyade si jamais je l'ai décidé pour eux. Donc rien ne les sauverait de la noyade. Et rappelez-vous le fameux Titanic, lorsqu'on l'a construit, ces architectes, ils ont dit, s'il y a un navire qui ne se noyera jamais, c'est bien celui-là, avec toute la technologie de l'époque qu'on a utilisée. Et pourtant, lors de son premier voyage, il a chaviré. D'accord ? Et il y avait des milliers de personnes qui sont mortes et seulement quelques-uns qui ont été sauvés. Et si Allah, Azza wa Jal, bien entendu, l'aurait voulu, personne d'eux ne pouvait être sauvé. Alors donc, Allah Azza wa Jal, après il dit « Illa l'istithna, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin ». Ça veut dire la seule chose qui pourrait sauver ces gens-là de la noyade, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Sauf si j'ai voulu accorder ma miséricorde à ces gens-là. « Illa rahmatan minna ». Mais « wa mata'an ilahin », ça veut dire cette sauvegarde-là ne va pas leur donner la vie jusqu'à l'infini. Cette vie-là serait de toute façon écourtée par la mort. Je leur donnerai une rallonge dans leur vie, une petite longévité de plus, jusqu'à un terme qui est décidé. Mais lorsque le terme arrivera, rien ne peut leur ajouter, ne serait-ce que quelques secondes dans leur vie. « Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin ». وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et ensuite il a dit وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ. Regardez ici, c'est une phrase à laquelle on attend une réponse, derrière laquelle on attend normalement une réponse, parce qu'il y a un va-et-vient. Lorsqu'on leur dit, on s'attend à qu'est-ce qu'ils vont dire. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde. Et après, le verset qui vient après, on a l'impression qu'il n'y a pas une continuité. D'accord ? Lorsqu'on leur dit ça, on s'attend normalement à ce qu'ils disent, ils répondent. Mais là, il n'a pas dit ce qu'ils ont répondu. Et la réponse, vous allez voir qu'il est subtil. Elle va venir dans les versets qui vont venir plus tard. Donc, quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde. Donc lorsque Allah Azza wa Jal a cité les différents signes, il a cité les signes de la terre, les signes qui ont un rapport avec le ciel, les signes qui ont un rapport avec la mer. Maintenant, il parle de nouveaux signes. Parce que les signes, d'une manière générale, c'est quoi un signe? Un signe, c'est un moyen pour réveiller la conscience des gens. C'est pour les exhorter. Sauf qu'il y a des exhortations par la vue, et il y a des exhortations par la parole. Par la vue, tu leur dis, regarde ça, regarde le ciel, regarde la terre, regarde les arbres, les rivières, regarde l'histoire, je vous ai sauvé de la noyade et tout. Et maintenant, il y a une autre manière d'exhorter, c'est par la parole, de venir leur dire, taqou ma bayna aydikum wa ma khalfakum, craignez ce qu'il y a entre vos mains et ce qu'il y a derrière. Et Allah Azza wa Jal ici, il ne nous dit pas le sujet du verbe. Lorsqu'on leur dit, craignez, qui est-ce qui leur dit ça? Ça peut être le Coran. Ça peut être le prophète, les messagers, les pieux, les exhortateurs, et ainsi de suite. Donc peu importe, c'est une exhortation verbale. À chaque fois qu'on leur donne une exhortation verbale pour les ramener au juste milieu, au droit chemin, ils refusent. Mais ils refusent là, n'a pas été cité dans ce verset-là. Alors, l'expression « ma bayna aydihim wa ma khalfahum », cette expression dans le Coran est utilisé de deux manières. Ma bayna aydihim, parfois ça veut dire ce qu'il y a derrière eux. Normalement, ce qu'il y a entre leurs mains, ma bayna aydihim, si on veut la traduire textuellement, ce qu'il y a entre leurs mains. Et ça signifie le passé, ou ce qu'il y a derrière eux en fait. Et ça peut être l'inverse, ce qu'il y a devant eux. Wa ma khalfahum, ça veut dire ce qui viendra après eux. Ma khalfahum, ce qui viendra après eux. Et ça peut signifier ce qui est passé avant eux. Il y a ces deux utilisations dans le Coran. Lorsqu'il y a ma bayna aidi wa ma khalfahum. Pour la première, par exemple, regardez lorsque Isa alayhi salam, dans Surat Saf, il dit Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ. Donc, quand Jésus, le fils de Marie, dit ô fils d'Israël, je suis un messager pour vous et je confirme ce qu'il y a de, dans la Torah qui est antérieur à moi. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ. Or, Taurat, il est venu avant Jésus, alayhi salam. Il est venu avant lui, au passé. Donc, lorsqu'il a dit Musaddiqa lima bayna yaday, ça veut dire je confirme ce qui m'a précédé, qui est la Taurat. D'accord ? Donc, c'est ça la signification ici. Donc, il parle du passé dans ce verset-là. En revanche, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Surat Hadid. Donc lorsque tu verras, c'est-à-dire le jour où tu verras, le jour du jugement, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant leurs mains. Ça veut dire quoi? La lumière, elle va être derrière eux ou devant eux? C'est devant eux, courant derrière leurs mains. Elle va leur illuminer le chemin. Ça ne sert à rien d'avoir la lumière qui éclaire à ton derrière et toi tu vas vers l'avant. Donc ici ce verset-là, ma bayna aydihim veut dire ce qu'il y a devant eux. Alors que le verset de Isa alayhi salam, ma bayna yadayya, c'est ce qu'il y a dans le passé. Donc les deux utilisations existent dans le Coran. Alors maintenant, si on revient au verset, wa idha qila lahum taqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum, qu'est-ce que ça signifie? Les savants ont divergé. Et en fait, certains ont dit ma bayna aydikum, ça veut dire ce qui est passé avant vous, ce qui est arrivé au peuple qui vous ont précédé. Wa ma khalfakum, ce qui va venir dans l'avenir, ce qu'il y a dans le supplice de la tombe, l'au-delà, et ainsi de suite. Ils ont dit, c'est ça la signification. D'accord ? Et pour d'autres, donc ça a été rapporté sur Ibn Abbas et d'autres. Et il y a ceux qui ont dit, non, c'est pas cela. « وَتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ » Ça veut dire craignez ce qui va venir après vous, devant vous. L'au-delà, ou la tombe, ou l'enfer, ainsi de suite. وَمَا خَلْفَكُمْ, ça veut dire ce qui est arrivé déjà aux peuples qui ont précédé. Mais la signification, elle est exactement pareille. Sauf que ceci a été rapporté sur Qatada et Sufyan Thawri, rahmatullahi alayhima. Mais en fait, les deux utilisations se valent. Il y a d'autres qui ont dit, en fait, ici, lorsque craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, ça n'a absolument rien à voir avec les événements de l'au-delà, et les événements qui ont précédé chez les autres peuples. Ça a à voir avec les péchés. Là aussi, ils ont divergé sur deux. Ils ont dit, craignez les péchés que vous êtes en train de commettre et les péchés que vous avez commis. D'accord ? Et certains ils disent, craignez les péchés que vous avez commis, ça veut dire ce que vous allez commettre comme péché, ce que vous êtes en train de faire contre le prophète et contre les siens. Donc, mais les deux se valent. Craignez, c'est-à-dire craignez le péché et craignez, parce que c'est les péchés qui mènent aux événements. Si vous faites les péchés maintenant comme vos prédécesseurs, vous aurez le châtiment qu'ont eu les prédécesseurs. D'accord ? Et si vous faites ces péchés-là, vous aurez les supplices de la tombe. Vous aurez... Donc, quand on parle des péchés ou qu'on parle des événements historiques passés et les événements qui vont venir le jour du jugement, on parle en fait de la même chose. Sauf qu'on parle, certains parlent de la conclusion, des conséquences des péchés, et certains parlent des péchés eux-mêmes. Parce que ce sont les péchés, en fin de compte, qui mènent à ces conséquences. Alors, وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ, ça veut dire quoi? Ça veut dire craignez ces choses-là. Donc, et le fait de les craindre, ça veut dire qu'il faut que vous vous repentiez. Repentez-vous et revenez au chemin d'Allah Azza wa Jal. Et passez outre ce que vous êtes en train de faire, rectifiez votre trajectoire, rectifiez votre comportement et suivez le prophète. Et ensuite Allah Azza wa Jal dit wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Or pas une preuve ne leur vient parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, lorsqu'on leur dit craignez ce qu'il y a devant vous, ce qu'il y a derrière vous, afin que vous auriez, afin de bénéficier de la miséricorde de Dieu, on attend leur réponse. Mais là, je n'ai pas parlé de leur réponse. Il a ramené un verset comme s'il était indépendant de ce qui a précédé, mais il ne l'est pas dans la réalité des choses. Or, pas une preuve ne leur vient parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. En fait, ce verset-là, il englobe tout ce qui a précédé. Quelles que soient les preuves qu'on leur amène, les preuves qui ont un rapport avec la terre, les preuves qui ont un rapport avec le ciel, les preuves qui ont un rapport avec l'exhortation, ils sont détournés. Donc voilà en fait leur réponse. Lorsqu'on leur montre les signes, ils s'en détournent. Les signes dans le ciel, dans la terre, ainsi de suite. Et lorsqu'on les exhorte avec la langue, verbalement, ils s'en détournent. Donc les réponses, c'est que non, on n'accepte pas votre exhortation. Donc vous voyez, donc, la réponse, il est subtil dans ce verset-là. Et ce verset-là est important parce qu'il vient à la fin de... D'un épisode dans lequel Allah a parlé de plusieurs signes, n'est-ce pas? Et ceci, quelque part, est une réponse à une confirmation qu'Allah a donnée tout au début de Sourate Yassine. Et qui, à l'époque, lorsqu'on l'a lu, on aurait pu se dire, mais pourquoi Allah donne une confirmation de cette manière-là? Lorsqu'Allah dit dans le verset 10, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Cela leur est égal que tu les avertisses et que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais. Au départ, lorsqu'il l'a dit, celui qui lit ce verset-là, il dit mais pourquoi Allah je le dis ça? C'est-à-dire que tu les avertisses, tu ne les avertisses pas, ça leur est égal, ils ne croiront pas. Et c'est après que l'explication est venue. C'est après. Et Allah a commencé à détailler pourquoi je t'ai dit qu'ils ne croiront pas. Parce qu'on leur montre les signes des cieux, on leur montre les signes de la terre, les signes en eux-mêmes, on les exhorte, et après tout cela, ils se détournent. Voilà pourquoi, donc, ô Mohammed, le problème ne vient pas de toi. D'accord? Il ne vient pas de toi, il vient de l'émetteur, il vient du récepteur. Le problème est chez eux. Donc, même si tu fais ce que tu veux, ils ne t'écouteront pas. Parce qu'ils n'ont pas déjà vu les signes d'Allah Azza wa Jal. Avant que tu ne sois là, normalement, un être humain bien constitué, normalement constitué, il doit voir ces signes-là et dire, il y a un créateur, même s'il n'y a pas d'avertisseur. Rien qu'avec ses yeux, il commence par les signes du cosmos et doit dire, il y a un créateur. Exactement comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert lorsqu'il se réfugiait dans la grotte de Hira, avant de recevoir la révélation, il se dit, qui est-ce qui a créé ce monde-là, cette grandeur? Et regardez ce contact avec la nature. Et ces gens-là n'ont pas de contact avec la nature, donc ils ne peuvent pas voir les signes de Dieu. Et ton exhortation est quelque part n'est qu'une catégorie des signes qui normalement sont censés réveiller l'esprit de ces gens-là. Mais puisqu'ils n'ont pas réveillé leur esprit avec tous les autres signes, c'est pas avec ton exhortation qu'ils vont le faire. Sauf si Allah ajoute bien entendu les guide. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Et quand on leur dit: dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru: nourrissons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Regardez ce verset aussi, il est très beau. Ce verset-là est très beau. D'après Ibn Atiyah, rahmatullahi alayhi, il dit qu'il y avait en fait une disette à la Mecque. Et les gens avaient énormément faim, il y avait beaucoup de pauvres qui ne trouvaient pas de quoi manger, de quoi se vêtir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Qurayshites d'aider ces pauvres, qui étaient en grande majorité des musulmans, d'aider ces pauvres. Et donc ils ont rétorqué avec cette phrase-là: allons-nous nourrir ceux que Dieu aurait pu nourrir? C'est vous qui nous dites que Allah est pourvoyeur. que votre Dieu est pourvoyeur. Ben, il n'a qu'à les nourrir. Pourquoi tu nous demandes de les nourrir? Regardez dans l'apparence de cette réponse. On pense qu'il y a une certaine logique dans ce qu'ils disent. D'accord? Vous dites que Dieu nourrit tout le monde. Oui. Et pourquoi dans ce cas tu me demandes de les nourrir? Ça vous paraît logique ce qu'ils disent. Et ça montre la force du message du Coran. Allah Azza wa Jalla est en train d'exposer un débat qu'il y a entre les musulmans et les non-musulmans. Et il l'expose avec une fidélité déconcertante. Normalement, lorsque toi tu es indifférent avec quelqu'un, un détracteur, quelqu'un qui est opposé à toi, et lorsque tu es indifférent avec lui, et que tu racontes le débat que tu as eu avec lui, on a toujours cette tendance à montrer que toi tu as bien parlé et que l'autre n'a pas bien parlé, n'est-ce pas? On a toujours cette tendance à le faire. Et regardez, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle du débat qu'il y a entre les croyants et les non-croyants, il expose bien les choses. Il expose bien ce que les musulmans disent et il expose aussi très bien ce que les autres disent. Même si c'est des choses qui laissent penser que c'est quelque chose de logique. Normalement, quelqu'un qui est faible, et ça vous le trouvez chez tous les faibles, celui qui est faible, qui a une opinion ou une vision, et lorsqu'il est faible et qu'il a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, il n'expose pas leur avis. Et c'est pour ça que vous avez certains mouvements, certains groupes, certains, notamment sectaires, qu'est-ce qu'ils disent à leurs fidèles? N'écoutez pas tel groupe. Ne les écoutez pas. Ne participez pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'il a peur de l'affrontement. Alors que quelqu'un qui est fort et qui sait qu'il est fort et qu'il a raison, il peut affronter qui que ce soit. Et il expose ce que disent les autres et ce qu'il dit. Il affronte le débat d'idées. Il expose le débat d'idées bien comme il le faut. Là, lorsqu'il parle de le kuffar, et malgré ça, il est en train d'exposer ce qu'ils disent d'une manière très belle. أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. Déjà, cette phrase-là est belle. Et ici, on voit que la syntaxe de la phrase, elle est très belle. Et elle est dite par qui? Par le kuffar. Par le kuffar. Et Allah Azza wa Jalla l'expose fidèlement. Il aurait pu ne pas la citer. Parce que ça risque de semer le trouble dans l'esprit d'un croyant. C'est logique ce qu'ils ont dit. D'autant plus qu'Allah Azza wa Jalla ne répond pas à cette critique-là. C'est ce qui est encore plus étonnant. S'il avait répondu, on aurait dit, il a exposé la critique de ces gens-là et ensuite il nous a donné la réponse. Allah Azza wa Jalla n'a pas répondu. Il nous a laissé nous-mêmes imaginer la réponse. Ça s'est arrêté là. Et là, ça vous montre que le Coran est par excellence un livre de dialogue. Et que l'islam, c'est une religion qui ouvre l'esprit au débat et à la critique, qui accepte la critique. Si l'islam n'acceptait pas la critique, Allah, jamais il n'aurait relaté ce que disent les détracteurs de l'islam. Regardez, même avec Satan, Allah Azza wa Jalla expose à plusieurs reprises ce que lui a dit et ce que Satan a rétorqué. Et avec des belles phrases. Il expose tout le problème. Parfois, entre musulmans, regardez lorsqu'on prend le fiqh, n'est-ce pas? Lorsqu'on prend le fiqh, il y a des divergences entre les écoles. Et vous avez certains gens, lorsqu'il a une conviction, c'est-à-dire de l'école à laquelle il appartient, et il veut parler de ses idées, il n'expose pas l'idée des autres écoles. D'accord? Il ne l'expose pas. Il dit, voilà, le hadith dit ça et ça et ça, et l'avis des savants, c'est ça et ça et ça. Et il passe à côté de ce que les autres ont dit. Et mais si jamais, si d'aventure, il parle de ce que les autres disent, il ne s'étale pas. En laissant entendre à celui qui l'écoute que les autres n'ont pas de preuves ni rien. Il dit, l'école hanafite a dit ou l'école shafi'ite a dit, mais la vérité, c'est ça. Il cite le hadith et tout. Mais il n'a pas cité les hadiths que les autres ont cités ou l'argumentation qu'ils ont donnée et tout ça. Et quelqu'un qui est vide, qui n'a pas un bagage, dès qu'il entend ceci, il croit que c'est la vérité. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il commence à rabaisser les autres. Parce que celui qui lui a exposé les faits n'a pas détaillé et n'a pas exposé fidèlement la vie des uns et des autres. Or, le Coran nous apprend que lorsque tu as quelqu'un qui diverge avec toi, même sur la question de la foi, tu débats avec lui et tu exposes ce qu'il dit. On n'a pas peur. Un musulman n'a pas peur de la critique. Et critique comme tu veux. Expose ta critique. Et je la relate devant les musulmans. Je viens et je dis, voilà, Celui-là, il est contre l'islam, il dit ceci, il dit cela, ou tel savant qui a le doctorat, je ne sais pas quoi, il a dit. Et on va négocier, discuter avec lui. Et c'est ça qui te donne encore plus de force. Et même ton détracteur, il te respecte. Il te respecte parce qu'il sait que tu exposes fidèlement ce qu'il a dit. Et c'est un manque de courage que de ne pas citer l'avis de ton opposant. C'est un manque de courage. Et c'est un manque de fidélité à l'esprit de l'islam et à l'esprit du Coran. Qui regardait comment Allah Azzawajal a exposé fidèlement ce que les autres ont dit, sans répondre en plus. Et c'est ça ce qui est encore plus étonnant, sans répondre. Parce qu'Allah Azzawajal nous a laissé répondre. أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Alors, إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Je reviendrai sur cette question-là. مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَا. En fait, le إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Qui est-ce qui a dit cette phrase? Les savants ont divergé. Il y a certains qui ont dit ce sont les kuffars, les dina kafarou, qui continuent de parler aux croyants. Allons-nous nourrir ceux que Dieu est capable de nourrir? C'est-à-dire votre logique, vous êtes dans un égarement évident. Donc c'est le kuffar qui parle. Pour d'autres savants, ils disent non. En fait, ici, c'est les musulmans qui leur répondent. Lorsqu'ils leur ont dit « Allons-nous faire nourrir ceux que Dieu est capable de nourrir ?» Les musulmans leur ont rétorqué « De toute façon, vous êtes dans un égarement évident. » Pour d'autres savants, ils disent « Non, en fait, c'est Allah Azza wa Jal qui parle et qui s'adresse aux kuffars. » Il leur dit « In antum illa fi dalalin mubin. » Cette argumentation que vous avez posée montre que vous êtes dans un égarement explicite. Les trois possibilités se valent. Les trois possibilités se valent. Ça peut être les mécréants qui parlent aux croyants, qui les accusent d'être des égarés. Ça peut être les croyants qui répondent aux mécréants en leur disant « Vous êtes égarés. » Comme ça peut être Allah Azza wa Jal qui commande justement cette discussion en disant que les kuffar sont égarés. Alors, il y a une histoire qui va dans le sens de ce verset-là. C'est que Abu Bakr, radiyallahu anhu, il avait l'habitude de nourrir les pauvres. Et un jour, il croisa Abu Jahl. Et Abu Jahl lui dit: tu prétends que Allah pourvoit les gens, il subvient aux besoins des gens. Et Abu Bakr lui dit: bien sûr, oui, ça, je le confirme. Et Abu Jahl de rétorquer: pourquoi alors il n'a pas nourri ces gens-là que tu nourris? Pourquoi tu les nourris? Ça veut dire que ton Dieu ne les a pas nourris, donc tu te contredis. Et regardez la réponse de Abu Bakr Siddiq. Et quelque part, c'est à nous de chercher la réponse à l'argumentation de l'kuffar. Abu Bakr a répondu à cette argumentation. Donc Abu Bakr, radiallahu anhu, a répondu: Dieu a éprouvé des gens par la pauvreté et il a éprouvé des gens par la richesse. Il a rendu des gens pauvres, il a rendu des gens riches. Et il a demandé aux pauvres de patienter afin qu'il les récompense. Et il a demandé aux riches de dépenser afin qu'il les récompense. Donc quelque part, tout tourne autour de tklif, tout tourne autour de la responsabilité de l'être humain. Les pauvres sont responsables. Nous, on voit la chose par rapport au bien matériel en pensant que c'est ça la beauté de la vie. Quelqu'un qui a un recul et qui a une vision philosophique de la vie, il dit de toute façon, le riche et le pauvre, tous les deux sont éprouvés. On est tous éprouvés, on est mukallafin. Sauf que tklif diffère d'une personne à une autre. Toi, tu es pauvre, mais tu dois patienter. Si tu ne patientes pas, tu es puni. Et toi, tu es riche. Oui, certes, tu vas jouir des biens terrestres que Dieu t'a donnés, mais c'est bien, cette jouissance-là, elle est éphémère. De toute façon, moi, elle n'a pas de poids dans ma vision et dans ma philosophie. Mais tu es éprouvé, si est-ce que tu vas donner de cet argent ou pas. D'accord? Et lorsque Abu Bakr justement a donné ce raisonnement-là, Abu Jahl lui a dit: Wallahi ya Abu Bakr, ma anta illa fi dalal. Atazum anna Allah qadirun ala it'amha wa la yut'imuhum thumma tut'imu ant. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est suite à l'argumentation de Abu Bakr Siddiq qu'Allah Azza wa Jal a révélé les versets de sourate Layl. Fa amma man a'ta wa ttaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila. Voilà la logique. Hein? Celui qui donne, qui craint Allah Azza wa Jal et qui déclare véridique la bonne récompense, nous le guiderons vers la bonne récompense. Et celui qui est avare, man bakhil wastaghna, et qui se contente de ce qu'il a, wa kadhaba bil husna, il a déclaré non véridique la bonne parole, nous le guiderons vers la plus difficile ou vers le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Donc il y a une logique. Et c'est cela la réponse normalement. C'est ce genre de réponse que nous devons trouver à ceux qui, quelquefois, réfutent l'idée même que Dieu existe parce qu'ils voient certaines choses qu'ils estiment être injustes. Il te dit, si Dieu existe, pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Puisqu'il y a des gens qui meurent de faim, donc Dieu n'existe pas. C'est quoi cette logique-là? Ça paraît comme une logique, une logique qui n'a pas de poids. Et c'est aux musulmans de répondre, parce que nous sommes dans un système justement de tklif. Allah Azza wa Jalla a mis l'être humain dans un système de tklif. S'il n'y avait pas ce système-là, on serait comme les anges. Imaginez qu'il n'y avait pas l'être humain. Est-ce que jamais les anges entre eux vont discuter entre eux pour dire mais pourquoi ceci ou pourquoi cela? Non, parce qu'ils ne sont pas mukallafin. Allah Azza wa Jalla les a asservis pour qu'ils lui obéissent à la lettre. D'accord? Et qu'ils adorent Allah Azza wa Jalla jour et nuit. Ils n'ont pas le choix. Donc à partir de là, ce genre de questions ne se posent même pas. Mais comme Allah Azza wa Jalla a voulu que l'être humain soit un être qui est responsabilisé, qui est responsable et qui sera jugé sur sa responsabilité, donc forcément, il y aura certaines choses qui apparaîtront injustes. Mais cette injustice-là ne revient pas à Allah Azza wa Jalla, non, elle revient à l'être humain, à qui Allah Azza wa Jalla a montré le bon chemin, il l'a orienté. Il lui a expliqué ce qu'il faut faire. Il lui a expliqué ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, à partir de là, s'il ne respecte pas ce système-là, ces règles qu'Allah Azza wa Jalla lui a montrées, c'est lui qui va créer l'injustice et non pas Allah Azza wa Jalla. Imaginez, je vais vous simplifier le. Imaginez, tu prends ton. Par exemple, tu vas faire ton permis de conduire. Tu vas à l'école de conduite, ils t'apprennent le. Comment conduire, tu fais les heures qu'il faut et ainsi de suite. Et à la fin, tu as ton permis de conduire. Et 2 mois plus tard, tu fais un accident. Là, je ne parle pas si tu es dans le bled, un des pays musulmans. Tu achètes le permis avec l'argent. Non, là, d'abord en France, tu as passé ton permis bien comme il faut. Tu as fait tes heures, l'inspecteur est passé, il t'a donné des bonnes notes, tu as bien fait. Et 1 mois plus tard, tu fais l'accident. Tu fais un accident. Est-ce que vous imaginez jamais que celui qui a fait l'accident va venir porter plainte contre l'auto-école et leur dire vous m'avez pas bien appris comment conduire? Est-ce que c'est jamais arrivé? Est-ce que ça peut arriver? C'est inimaginable. S'il le fait, on va le ramener à l'hôpital psychiatrique et on va dire mais ça va pas, nous on a fait notre travail. Après c'est toi qui as failli à la réglementation, à ce qu'on t'a montré, surtout s'il est fautif. Donc c'est exactement, c'est à Dieu qui appartient le meilleur exemple. Lorsqu'il y a une injustice, il ne faut pas la remettre à Allah. Allah Azza wa Jalla, de toute manière, il pourvoit à tout le monde. D'une manière directe ou d'une manière indirecte. Même le pauvre, Allah Azza wa Jalla pourvoit lui d'une manière indirecte. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a mis une sharia, il a mis une législation. Et il nous a dit dans cette législation, vous devez donner zakat. Et cette zakat, on va la donner à qui? Aux pauvres, pour nourrir, pour qu'ils puissent s'alimenter. Donc Allah Azza wa Jalla les a nourris ou pas ici? Il les a nourris en guidant ces gens-là. Allah Azza wa Jalla a mis la compassion dans le cœur des êtres humains. Si Allah Azza wa Jalla a retiré la compassion des êtres humains complètement, tu es en train de manger ton sandwich qui fait 1 mètre, ou tu trouves quelqu'un qui est en train de prendre le sable, à manger le sable, et tu lui donneras rien. Parce que tu n'as pas de compassion dans le cœur. Mais Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu que ça se passe ainsi. Il a mis la compassion, même parfois, dans le cœur de quelqu'un qui n'est pas croyant. Il a un bon sandwich, il trouve quelqu'un qui est en train de manger de la terre, et il partagera avec lui. Même s'il ne le fait pas pour Dieu, mais il y a quelque chose dans son cœur qui lui dit, il faut que tu partages. Cette chose-là, qui est-ce qui lui a donné? C'est Allah Azza wa Jalla. Donc Allah Azza wa Jalla a alimenté l'autre ou pas? Il a alimenté l'autre. Et c'est pour ça que vous voyez même dans des pays qui... Non, ils font tout pour coloniser les autres pays, pour leur dérober leurs biens, ainsi de suite. Lorsqu'un tremblement de terre arrive, quelque chose arrive, vous voyez ces pays-là même qui... Ils prennent des biens de leur pays et ils les ramènent à ces pays-là. C'est-à-dire, on se dit, mais parce qu'il y a un certain niveau justement de compassion et de miséricorde qu'Allah Azza wa Jalla a mis dans le cœur des êtres humains pour que ces pauvres-là finissent justement. Et vous voyez parfois, et c'est malheureux de dire, parfois des non-musulmans qui font beaucoup plus pour les pauvres que les musulmans eux-mêmes. Alors, ben, tu vois parfois les chrétiens, ainsi de suite, ils ont des associations caritatives, lorsqu'ils veulent créer associations caritatives, associations d'Edouada, ils ouvrent le secours catholique pour les musulmans, les non-musulmans. Lorsque quelqu'un veut faire une association, l'association des musulmans de petits patelins intels, la mosquée intel, je vais ouvrir une mosquée, je vais ouvrir une deuxième mosquée, une quatrième mosquée, une dizaine de mosquées. Ouvre quelque chose, et non, fais quelque chose qui est rentable pour les musulmans. Il n'y a que les mosquées à ouvrir, c'est tout le seul bien qu'on peut faire ici en France par exemple. Fais autre chose, d'accord. Et c'est là où on voit parfois malheureusement qu'on ne respecte pas. Ça revient beaucoup dans le Coran. Le simple fait de ne pas inciter à nourrir le pauvre, déjà ça fait valoir le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Le simple fait de ne pas pousser les gens et inciter les gens à nourrir les pauvres. Alors par ailleurs, on peut demander pourquoi, regardez la constitution du verset. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا. Là, il parle de pourvoiement. Lorsqu'on leur dit donner, أَنْفِقُوا, dépenser. أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ, de ce que Allah Azzawajal vous a attribué. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru أَنُطْعِمُوا. Normalement, il devait dire أَنُنْفِقُوا. Parce qu'au début du verset, il leur dit أَنْفِقُوا, dépenser. Théoriquement, il devait répondre أَنُنْفِقُوا مِمَّا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهِ. Alors qu'ils ont dit أَنُطْعِمُوا. Ils ont parlé de, allons-nous donner la nourriture, alimenter ceux à qui Allah aurait pu donner l'alimentation. Alors que le pourvoiement, c'est un terme qui est beaucoup plus large. Infaq, anfiqo, la dépense, on peut la faire pour nourrir une personne, pour la vêtir, pour lui donner un abri, un logement. Donc pour beaucoup de choses, pour lui acheter une monture. Donc c'est beaucoup plus large. Mais eux, lorsqu'ils ont répondu le kuffar, ils ont répondu à l'ot'imu. Or, l'it'am, c'est la chose la plus basique dans l'infaq. C'est la chose la plus basique. Si je viens et je te dis, j'ai faim, j'ai pas de quoi manger. Imaginez ceux qui font la manche. Voilà. Ceux qui font la manche, donnez-moi dans les feux rouges. Qu'est-ce qu'ils te disent? Toujours, il y a la meilleure manière d'attirer la compassion de l'autre. Ils disent, donnez-moi de quoi manger. Il ne va pas te dire, donnez-moi pour acheter une chemise ou là, donnez-moi pour payer mon loyer. Non, il va à la chose la plus basique qui suscite la compassion des gens. Parce que ça, c'est le minimum. Il est donner à quelqu'un à manger pour survivre. Si tu dis les habits, tu vas dire, ben, prends des feuilles d'arbre ou des cartons ou mets-les autour de toi. Ça y est, tu es protégé du froid. Mais la nourriture, sinon tu ne vas pas lui dire de manger le carton. Là, il faut lui donner la nourriture. Donc eux, ils vont tellement, ils sont avares, qui vont à la chose la plus basique, c'est l'état. Même l'état, on ne va pas leur donner. Même pour les nourrir, on ne va pas le faire. Un autre, raison de plus, s'ils ne donnent pas à manger aux autres, est-ce qu'ils leur donneront à se vêtir pour s'habiller? Non. Est-ce qu'ils leur donneront un logement? Pas du tout. S'ils n'ont pas donné le minimum, ils ne donneront pas le maximum. Donc c'est pour cela qu'ils sont allés à la chose la plus basique. Au lieu de parler de l'infaq. Anfiqou mimma razaqakum Allah, qala alladhina kafaru alladhina amanu anut'imu man law yasha Allah ta'ama. Même l'it'am ou le frappa. D'accord? Même l'it'am, qui est la chose la plus basique, qui normalement, c'est quelque chose qui devait être répandu entre les riches et les pauvres. Alors je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais toujours est-il que vous voyez déjà la beauté, pour récapituler, donc Allah Azza wa Jal, dans cette partie-là, il a parlé des signes pour susciter justement la conscience de ces gens-là et leur montrer que Dieu existe, qu'il y a un retour vers Dieu, que vous allez être jugés, et ainsi de suite. Et ensuite, il a parlé de ces signes-là qui ont un rapport avec le cosmos, des signes visuels. Il a parlé de certains signes qui viennent de l'exhortation, qui appellent la sympathie, la compassion des gens. Taqouma bayna aydikum anfiqou mimma razaqakum Allah. Ce sont des choses qui suscitent le minimum de compassion que doit avoir un être humain normalement constitué. Et c'est pour cela que on comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une femme prostituée est entrée au paradis parce qu'elle a nourri un chien. Parce que là, ça, ce minimum de compassion que doit avoir l'être humain, elle l'avait, cette femme-là. Elle l'avait. Et ne l'a pas retiré de son cœur, comme ces polythéistes l'ont fait en refusant de donner à manger à des gens qui sont affamés. Et toujours donc, vous regardez la beauté de l'expression coranique, comme je le dis, je le redis toujours. Et c'est pour cela qu'on doit toujours s'attarder sur les versets de coraniques et toujours poser la question, pourquoi il a dit comme ça, il n'a pas dit comme ça, où est la réponse à ce questionnement-là, où est la réponse à ce début-là, où est la fin, il faut que je la trouve. Et forcément, vous allez la trouver un petit peu enrobée dans un autre verset, mais encore faut-il la chercher. Et tout cela, c'est pour qu'Allah Azza wa Jal suscite en nous l'intelligence et le savoir. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cet outil-là pour déguster le Coran et bien le lire. Alors que si tout a été explicite, tout a été étalé d'une manière très très détaillée, on n'aura pas ce plaisir justement à déguster le Coran comme il le faut, et à le lire, et à le chercher, et à le comprendre, et à poser des questions. Et Allah Azza wa Jal nous laisse justement avoir énormément de questions. Il nous montre tout, mais il ne montre pas tout. Quelque part, il montre tout. Et on peut se contenter de ces versets-là. Beaucoup de nous avons lu justement ces versets-là, ils ont compris de quoi il s'agit. Mais lorsqu'on rentre dans les détails, on découvre d'autres choses. Mais tout ça, c'est pour qu'Allah Azza wa Jal nous dise, utilisez votre intelligence. Je vous ai donné une raison, je vous ai donné une intelligence, et c'est ce qui vous caractérise par rapport à beaucoup d'autres créatures, et c'est ce qui vous permettra de découvrir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Parce que lorsqu'on cherche et lorsqu'on trouve un résultat avec un effort qu'on a fourni, on déguste les résultats. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être de ceux qui ne font que consommer ce qui est les plats prêts. Hein? Malheureusement, c'est ce qui existe dans notre époque. Tu trouves maintenant à quelqu'un qui veut apprendre l'islam, là, je veux tout prêt, donne-moi un livre où tout est expliqué. Halal, haram, gris, blanc, noir, trois couleurs, à la limite, je peux accepter. Utilisons notre intelligence. Et ayons l'esprit critique, lorsque nous entendons quelqu'un parler ou quelqu'un expliquer des choses, posons les questions, osons poser les questions pour découvrir, et ne soyons pas que des réceptacles qui, c'est-à-dire, consomment ce que les autres ont réfléchi. Nous avons droit aussi de réfléchir, de poser des questions, et au moins de découvrir tout ce qui a été, le panel de ce qui a été dit par les savants, même s'il y a beaucoup de divergences, mais ça permet de voir justement la grandeur de l'esprit islamique et la grandeur de ce Coran et la grandeur de cet islam-là qui n'a pas voulu faire des musulmans des clones qui ressemblent l'un à l'autre, mais non. Il a voulu qu'il y ait cette divergence dans l'esprit, dans l'interprétation, dans le commentaire, et c'est ce qui donne la richesse à l'islam, et c'est ce qui donne la richesse à la création de Allah tabaraka wa ta'ala. Nafa'ani Allahu wa iyyakum al-Qur'an al-Hakim wa bi-hadithi sayyidi al-awwalin wal-akhirin wa ghafara Allahu li wa lakum wa lisa'iril al-muslimin. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.